C'est Benoît Peters qui est aujourd'hui en studio pour parler du contenu des albums d'Hergé et de la narration hergéenne pour ce tome 3 de l'hommage à Hergé. Alors après les ruades dans les brancards des albums précédents, on arrive à deux albums plus intimes, détachés de l'aspect politique. Tintin au Tibet et puis les bijoux de la Castafiore. Que symbolise Tintin au Tibet ?
J'aimerais d'abord revenir un instant sur l'aspect politique dont j'ai pas beaucoup parlé et tout ce qui a été dit par Jacques Skepman est très intéressant, mais m'inspire quelques petits commentaires. Je pense qu'Hergé est politiquement un conservateur, que c'est très important de percevoir ce côté conservateur qu'il y a dans ses albums, mais qui se double, et ça Jacques Skepman a très bien dit, d'un côté anticonformiste. C'est vraiment, on peut dire, le conservateur éclairé. Le conservateur prêt à admettre un certain nombre de transformations, à dénoncer un certain nombre d'injustices, mais à l'intérieur d'un système qui est un système fondamentalement d'ordre. Rappelons-nous du sceptre d'Ottokar et de l'idée de ce sceptre qu'il faut remettre à sa place pour maintenir la royauté, c'est-à-dire un principe de stabilité. Bon, que cette défense de la royauté et du sceptre se fasse contre un régime beaucoup plus oppresseur, ça c'est certain, mais il n'empêche que c'est un principe conservateur. Et je crois que c'est très important parce que c'est très lié à tout un aspect du travail d'Hergé qui n'est pas directement politique, qui est justement tout cet aspect d'ordre qu'on aperçoit dans la structure de ces récits, dans le fait que ce qu'on a au début, on le retrouve à la fin, que tout se boucle, que tout s'équilibre. Et bien tout cet ordre se retrouve dans son espèce d'imaginaire politique, au fond, avec cette idée d'une stabilité, d'une espèce de valeur de la stabilité qui n'exclut pas la possibilité d'une dénonciation, mais qui est quand même globalement un système, disons, solide. Avant tout solide. Et c'est un aspect qu'on va retrouver poussé jusqu'à l'extrême dans les Picaros. Mmh. Bon, j'anticipe un peu sur l'ordre chronologique, où les Picaros, c'est vraiment l'essence du conservatisme, on peut dire intelligent, qu'on partage ou non cette optique, c'est-à-dire, c'est à partir d'une vision très pessimiste de la possibilité politique, comme il a été dit, qu'on part de l'idée soit qu'il ne faut aucun changement, soit qu'on peut avoir un changement s'il se passe de violence, mais que de toute manière, il n'y a rien de bon à attendre du changement. Et Henri Van Lier citait tout à l'heure Pascal, qui ne dit rien d'autre, c'est-à-dire l'idée pascalienne, qui serait assez proche de celle d'Hergé sur ce plan, c'est tous les systèmes politiques étant mauvais, autant conserver celui qui est en place, et je cite maintenant Pascal, pour éviter les guerres qui sont le plus grand des maux. Donc c'est-à-dire, comme il n'y a rien à attendre du politique, maintenons les situations à leur point. Ce qui est évidemment la fin de Tintin et les Picaros, cette espèce d'idée que de toute façon rien n'aura changé, ce qui ne veut pas dire que le régime précédent, le régime de Tapioca, était bon, pas du tout. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à en espérer, qu'il n'y a rien à espérer d'une transformation. C'est aussi pour dire que Hergé, dans cette famille conservatrice, a des précédents illustres et non négligeables. C'est aussi l'idée freudienne. Hein, l'idée de Freud à la fin de sa vie, dans Malaise dans la civilisation, c'est que l'ensemble des comportements politiques étant déterminés par la volonté de pouvoir et la pulsion de mort sera toujours au travail et amènera toujours une espèce de volonté d'anéantissement et d'autodestruction qui rend impossible toute idée d'une transformation sociale. Bon, idée freudienne lancée en 29 et qui se trouvait tragiquement confirmée dans les années suivantes et qui est une analyse politique qu'on peut ou non partager, mais qui est extrêmement forte et qui, à mon avis, recoupe tout à fait la thèse hergéenne, donc une espèce de conservatisme prêt à accueillir certaines transformations.
Qu'est-ce que tu penses de la vision de l'armée alors chez Hergé ? Parce que dès qu'apparaît un militaire, c'est soit il est soit ridicule, soit il abuse des pouvoirs et c'est une crapule.
Alors, il y a chez Hergé, et alors ça c'est un mélange assez bruxellois, faisant un petit peu d'ethnologie locale, et il y a chez Hergé un mélange d'un côté conservateur au niveau des institutions et d'un côté frondeur. Mmh. Ce mélange se retrouve typiquement dans le balancement entre la série Tintin, qui est une série conservatrice par son système structurel, et la série Quick et Flup. Quick et Flup, ce sont deux enfants. Et en plus, ce sont des petites histoires. Et dans les petites histoires, Hergé assume ce côté frondeur encore bien davantage que dans Tintin. C'est-à-dire que c'est comme si, ayant assumé les grandes structures, comme des structures d'ordre, il pouvait se permettre de lancer des cailloux sur un certain nombre de choses et de donner libre cours à son côté insolent, qui est là, qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, parce qu'on va le retrouver en plein dans les bijoux de la Castafiore. Et c'est cette contradiction aussi entre, disons, la figure principale, qui est une figure de conservatisme, et puis toutes les pointes, toutes les piques, toutes les insolences, etc., qui forment véritablement le nœud de son système. Hein. C'est, je ne veux pas du tout dire qu'Hergé, c'est le conservateur pur et dur, etc., parce que, bon, d'abord, un conservateur pur et dur, il n'a pas d'humour. Il ne peut pas avoir d'humour, parce que l'humour, c'est la remise en cause d'un ensemble des structures. Mais un conservateur peut avoir de l'humour et être un conservateur de deuxième ou de troisième degré. Enfin, je veux dire, c'était le cas d'Hitchcock aussi, en plein. Alors, effectivement, par rapport à certaines représentations caricaturales de l'ordre, de l'organisation et de la hiérarchie, il y a toute la fronde d'Hergé. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière à propos de la famille, hein, mm-hmm. l'imagerie familiale qui était caricaturée par Lampion. Mais effectivement, il y a toute la parodie du militarisme qui est très très fréquente, effectivement, et qui trouve des illustrations entre autres dans le Lotus Bleu, mais aussi dans l'Oreille Cassée, avec cette armée d'opérettes où il y a plus de colonels que de caporaux. Mais c'est des choses qu'on trouve à fond dans Quick et Flup, où on a vraiment cette fronde systématique contre toutes les figures de l'autorité, hein, les parents, les professeurs, le flic, toutes ces figures, toutes les figures du pouvoir telles qu'elles peuvent être ressenties par un enfant, sont non pas remises en cause. Ça, c'est très important à sentir. Il n'y a pas de véritable remise en cause. Elles sont admises, mais admises avec insolence. Et ça, je crois que c'est la grande figure hergéenne. C'est-à-dire, le pouvoir est là. C'est pas particulièrement une bonne chose, mais probablement qu'il n'y a rien de meilleur qui puisse le remplacer. Assumons donc l'existence de ce pouvoir, ne croyons pas à une véritable transformation, mais assumons-le avec humour et avec insolence. Ça serait, à mon avis, cette pensée politique qui serait, peut-être un trait relativement belge d'Hergé. Une manière de dire, de toute façon, le pouvoir, le gouvernement, on sait bien que ça ne nous fera pas grand-chose, mais on fait avec, hein.
Typiquement belge, en effet. Avant de passer à un extrait de Michel Serres, je voudrais que tu parles un peu de Tintin au Tibet.
Bon, alors tu disais, effectivement, au moment où j'ai interrompu par cette parenthèse interminable, que le Tibet et la Castafiore marquaient une espèce de retour à l'intimisme chez Hergé. Et je crois qu'effectivement, il y a, après les fastes de la Lune, de l'affaire Tournesol, de Coq en Stock, etc., grands albums, grandes épopées, grands problèmes, il y a effectivement, consécutif à une espèce de crise personnelle qu'Hergé vit à ce moment-là, une espèce de recentrage sur des problèmes plus affectifs. Bon, effectivement, avec alors quelque chose de très très serré qui intervient entre Tintin et Chang, bon, vraiment une quête d'amitié complètement épurée, complètement vidée de tous éléments extérieurs dans Tintin au Tibet. Et puis, alors, quelque chose d'encore plus curieux et d'encore plus étonnant dans les bijoux de la Castafiore, dont Henri Van Leer parlait tout à l'heure avec énormément de brio. Et les bijoux de la Castafiore, qui est quand même l'album de l'auto-ironie par rapport à Hergé. Hein, c'est-à-dire, c'est un album intimiste, bon, dans le sens qu'il n'y a pas de voyage, dans le sens que tout se passe dans la maison, mais aussi c'est un album intimiste dans le sens que c'est un album réflexif, c'est-à-dire un album fait entièrement du retour d'Hergé sur son propre travail. C'est Hergé lecteur d'Hergé, c'est Hergé revenant sur ses tics, revenant sur l'éthique de ses personnages, Hergé revenant sur son système de narration et repassant tout cela au crible d'une critique impitoyable, mais aussi drôle. Parce que la critique chez Hergé passe toujours par la drôlerie, enfin, jamais par le discours. Bon, c'est un album extraordinaire à tout point de vue. On va entendre, je crois, Michel Serres en parler. Mais bon, moi, c'est un album auquel j'ai consacré un livre entier. Je ne peux, à ce point de vue-là, que renvoyer à ce travail que j'ai fait, où j'ai essayé de montrer à quel point, à tous les niveaux, je ne peux pas le résumer ici, mais à quel point, à tous les niveaux, cet album est tissé de subtilités multiples et de trouvailles de chaque instant, de chaque mot, de chaque image.
Eh bien, ce livre paraîtra aux éditions Magic Strip, je crois, l'année prochaine. En attendant, nous écoutons donc Michel Serres au micro de Benoît. C'est un extrait du livre Cassette Hergé, paru aux éditions Décembre.
Je pense qu'il n'y a pas forcément des textes sérieux, des textes qui ne le sont pas.
Michel Serres.
D'une certaine manière, les textes d'Hergé me paraissent tout à fait sérieux, et je vais dire pourquoi. Mais tout d'abord, j'avais la préoccupation de payer une dette. Je crois que les textes d'Hergé ont été parmi ceux qui ont le plus réjoui mon enfance. Ils ont d'ailleurs réjoui de façon tout à fait raisonnable mon âge mûr, et par conséquent payer un certain tribut de reconnaissance à qui m'avait rendu heureux me paraissait à un certain moment donné tout à fait juste. Ça, c'est la première raison, cette raison qui est un peu personnelle et subjective. La deuxième raison, c'est celle du sérieux dont vous avez parlé. Depuis toujours, enfin depuis que je travaille, je m'étais intéressé aux questions concernant la communication. La communication est un des sujets les plus importants de mon travail, et il est devenu important tout simplement parce que nous sommes dans une certaine civilisation de la communication. Or, il se trouve que les bijoux de la Castafiore ou même d'autres bandes dessinées dans l'œuvre d'Hergé traitent tout à fait directement de ce sujet et traitent de ce sujet avec une finesse, avec une exactitude et avec un sérieux qu'on ne trouve pas du tout chez les philosophes qui paraissent ou qui avouent traiter de la question. Je crois que la Castafiore, là, c'est le personnage typique du parasite tel qu'il m'est apparu il y a quelques années. Et par conséquent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas que les questions traitées par Hergé et la manière dont il le fait soient marginales ou soient un peu décalées par rapport à ce qui fait le sérieux central de nos problèmes. Je crois que Hergé est certainement un des auteurs qui a le mieux compris la civilisation dans laquelle on commençait à se plonger. Il l'a dit avec ses moyens qui sont plus fins et plus complets que beaucoup d'autres. Et par conséquent, ce que j'ai écrit sur lui, je veux bien, s'il vous plaît, le placer au centre de ce que j'ai écrit. Vous avez cité par exemple le système de Leibniz, qui est un système de la communication, et que j'ai étudié pour des questions de communication. Et je crois bien que si Leibniz était parmi nous, il lirait Hergé. Parce que il a pensé de façon profonde la communication, et Hergé aussi. Et je crois bien, non pas seulement avoir été fidèle à mon enfance et à l'objet, mais aussi fidèle à la philosophie quand j'ai traité ce sujet. Je crois que trouver dans les bijoux de la Castafiore une philosophie, c'est trouver simplement ce qui y est déjà. Vous voyez, il y a quand même là une analyse double, à la fois technologique, puisqu'il y a la radio, l'audiovisuel, la télévision, etc., et puis à l'intérieur même des rapports humains. Oui, c'est une analyse très très profonde des relations humaines, ça, je le crois vraiment. À certains égards, je ne connais pas, et je le répète, d'opérateur abstrait plus efficace que l'opérateur qui s'appelle la Castafiore. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher un opérateur abstrait pour l'expliquer. C'est elle qui m'explique. C'est elle qui me fait voir comment nos communications sont manquées, pourquoi, qui se met en travers, qu'est-ce que c'est cette douleur au pied qui s'en va parfois et qui revient à certains moments. Qu'est-ce que c'est cette douleur de la communication? Qu'est-ce que c'est ces gammes qui occupent l'espace comme l'odeur du fumier là, des Romanichels, etc. Pourquoi on est si malheureux d'être séparés les uns d'avers les autres? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Pourquoi chaque fois qu'on téléphone à celui qui doit réparer l'escalier de marbre, pourquoi il ne répond jamais? Pourquoi il ne vient jamais? Qu'est-ce que c'est cette étrange tragédie? Qui c'est cette femme-là qui est toujours en travers de nous?
Finalement, les albums se raréfient. 5 ans d'attente pour Vol 714 pour Ciné, 8 ans pour les Piqueros, sorti en 1976, et le dernier, le prochain datin, n'est toujours pas sorti. Alors, Hergé continue dans les albums que je viens de citer la remise en question de son monde. Et cette fois, ce sont surtout les personnages qui en prennent plein la gueule. Rastapopoulos dans Vol 714 pour Ciné, Alan dans le même. Toujours dans cet album, le bon que défend Tintin, qui est Carédas, n'est plus si pur qu'au début, et le manichéisme des débuts de Tintin s'est totalement effacé. Tintin, dans les Picaros, n'est plus prêt à foncer tête baissée au secours de ses amis, et son scepticisme s'oppose tout à fait à la candeur de ses débuts. Et puis alors il y a Alcazar, le super mâle, qui est complètement étouffé par une marâtre, et les révolutionnaires sont des ivrognes parfaits. J'ai des commentaires à faire.
Eh bien, le scepticisme, le règne de l'imaginaire, des simulacres qui s'étaient déjà affirmés dans l'affaire Tournesol, on parlait de la séquence de la télévision, qui domine complètement les bijoux de la Castafiore, et Michel Serres en parlait à l'instant avec énormément de brio, s'affirme encore. Il y a cette merveilleuse séquence finale de Vol 714, où tous les événements sont vus à travers Séraphin Lampion, éternel sceptique, qui ne peut rien croire et qui, d'une certaine manière, annule l'ensemble de l'aventure comme l'amnésie des personnages va l'annuler. C'est-à-dire, à nouveau, il ne s'est rien passé. Tout cela, ce n'est que pour la télévision, mais pour la télévision qui n'a pas d'événement à en tirer. Il n'y a plus rien à en dire. Et dans les Picaros, c'est l'image du carnaval qui remplace tout cela. C'est-à-dire que la politique, qui était autrefois la chose sérieuse, et encore pas tant que ça, parce que n'oublions pas que la première grande scène en Amérique latine, c'était aussi une scène d'ivrognerie, hein, dans le l'oreille cassée, le moment de la fusillade de Tintin, etc. Être fusillé, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, disait le militaire.
C'est aussi un des rares moments où Tintin boit.
Boit, oui, absolument. Après, Haddock assume le rôle pour lui, il ne boit plus. Mais enfin, il a été traversé par cette illumination, il a vu quelque chose, là, je pense. Et voilà, c'est cette image du carnaval qui, pour l'instant, termine pour nous Hergé. Mais il y a ce titre du prochain album, Les Faussaires, qui est un titre extraordinaire. Puisque là,
il est certain que ce sera le titre.
Je crois, c'est Les Faussaires. Ça peut toujours changer, un titre peut changer. Je crois qu'Hergé a changé plusieurs fois ses titres pour d'autres albums. Mais enfin, tel qu'il est, ce titre qui nous renseigne au moins sur le thème de l'album nous montre que cette idée du simulacre, cette impossibilité d'adhérer aux choses, dont j'ai essayé de montrer qu'elle était caractéristique d'Hergé, qu'il y avait chez lui toujours une espèce de distance, une manière de survoler, de décrire les choses sans complètement y croire, eh bien, sera probablement au centre de cet album, puisque ce n'est pas la grande peinture qui sera le thème, mais bien les simulacres, ceux qui essaient de la contrefaire, de la remplacer, etc., c'est-à-dire, à nouveau, le carnaval, l'amnésie, la télévision, etc.
Eh bien, pour conclure cette émission, je te propose un extrait d'une interview de Jacques Kepmans qui parle de l'apport d'Hergé à la culture. Hergé ensuite au micro de Patrick Anspach, un journaliste d'Europe 1. Et puis, je laisse le mot de la fin à Jacques Kepmans une nouvelle fois.
Hergé a apporté beaucoup à la culture en donnant à beaucoup l'envie d'aller voir plus loin. Au-delà de ses dessins, au-delà de ses créations, il a peut-être donné envie à des enfants, peut-être déjà débiles, d'aller un peu voir vraiment le musée du cinquantenaire, les collections anciennes, et d'aller plus loin. C'est pour ça que le musée imaginaire de Tintin, l'exposition que nous avons vue il y a quelques années, était pour moi la consécration la plus sublime et la plus extraordinaire d'Hergé. Encore un exemple personnel, il y a deux ans, j'ai fait un voyage au Pérou, un voyage culturel, et tous mes compagnons, qui étaient plutôt du genre politique ou du genre commercial, pendant tout le voyage, visitant le musée de l'or à Lima, allant à Machu Picchu, la seule réflexion vraiment que j'ai entendue, 10 fois, 100 fois, mais c'est pas croyable, nous sommes dans Tintin. Alors je me demande s'il y aurait un certain intérêt pour la culture inca, s'il n'avait pas d'abord découvert le temple du soleil.
actuel n'est peut-être pas démodé en tant que héros, mais peut-être que les situations sont démodées. Est-ce que, parce qu'il s'agit d'un personnage actuel, les livres risquent de se démoder au fil du temps?
Et vous avez raison de dire que Tintin est un personnage toujours actuel. Il a été actuel il y a 50 ans, il a été actuel il y a 40, il y a 30, il y a 20. Il vit toujours dans le moment présent. C'est pas un personnage historique ou quelque chose comme ça qui limite un peu les choses. Mais évidemment, il risque aussi toujours de se démoder. Jusqu'à présent, il ne semble pas que ce soit le cas. Les situations peuvent l'être, mais d'après les tirages, mon Dieu, c'est ça le résultat, je ne veux pas dire du point de vue financier, mais du point de vue simplement observation, aucun ne dépasse vraiment les autres.
Parce que si on fait une comparaison avec un personnage comme Astérix, par exemple, oui, qui se passe dans l'Antiquité, on voit qu'il ne se démode pas parce que c'est de toute façon l'histoire. Mais Tintin, ce n'est pas le cas.
Non, Tintin, ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs ce qui continue à m'étonner, c'est qu'un personnage né il y a 50 ans et qui vit à une époque où tout passe très vite, hein, tout change et tout se modifie très rapidement à notre époque, il continue à avoir la même audience et même une plus forte audience encore. C'est ce qui ça continue à m'étonner. Il risquait de se démoder. Il y a des albums où les voitures, par exemple, où les situations ont changé, ils ne sont plus actuels. Et cependant...
Est-ce que dans 50 ans, maintenant, on ne lira Tintin que comme un vieux classique et pas comme un héros que l'on aimerait suivre?
Dans 50 ans, ça ne plus. Je ne le verrai évidemment pas. Je ne peux pas prévoir ce qui se passera. Mais actuellement, ce que vous dites, il y a une partie de vrai dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tintinologues, dirais-je, qui connaissent bien leurs histoires et qui les lisent et qui les relisent. Mais il y a, malgré tout, des enfants, je reçois une correspondance assez importante d'enfants qui découvrent ça pour la première fois, ou bien aussi bien en Suède qu'aux Indes, par exemple, et qui m'écrivent leur enthousiasme. Alors, je ne comprends plus très bien non plus, j'avoue que ça m'étonne. J'aime raconter des histoires et j'aime de les raconter et de faire en sorte que je puisse presque y croire moi-même. Maintenant, si c'est de l'art ou si c'est pas de l'art, ça, c'est pas à moi de le décider.
Mais tout de même, vous devez tout de même avoir l'idée d'avoir contribué à faire de la bande dessinée quelque chose d'important. Vous ne faites pas ce qu'on disait il y a 20 ans, des petits Mickey.
Des Mickey, non. Oh, ça existe encore, vous savez, ça existe toujours, des gens pour qui c'est des petits Mickey. Hein. Chaque dessinateur a contribué à apporter quelque chose. Avant moi, il y a eu Alain Saint-Augan, certainement. Avant moi, il y avait les Américains. On est toujours le fils de quelqu'un et peut-être aussi le père de quelqu'un.
Toute modestie mise à part, si on vous proposait par exemple un poste à l'Académie française.
Voilà ma réponse.
Un personnage finalement qu'on rencontre fort peu, disons que je ne l'ai jamais rencontré, mais je crois qu'il existe, contrairement à Dieu.